Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, un temps du débat consacré ce soir aux médias sociaux ou aux réseaux sociaux et à leurs responsabilités. À l'ordre du jour ce soir, la question est, les réseaux sociaux doivent-ils être des éditeurs ? Depuis la semaine dernière et l'attaque du Capitole à Washington, l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, a vu ses comptes Facebook, Twitch et Instagram suspendus au moins jusqu'à la transition du 20 janvier. Son compte Snapchat bloqué, son canal de communication préféré Twitter et ses 88 millions de followers fermés, sa chaîne YouTube expurgée de certaines de ses vidéos. Des procédures exceptionnelles pour un président en fonction qui utilisait tous ses canaux comme des médias à part entière pour communiquer avec les citoyens états-uniens et le reste du monde. D'ailleurs, ces interdictions et ces fermetures confirment-elles par l'excès que ces plateformes ne sont plus des simples hébergeurs, des réseaux de tuyaux et de diffusion, mais bien des médias et donc des éditeurs, tombant ainsi sous le coup des lois sur la responsabilité éditoriale. Ce sont quelques-unes des questions que nous poserons à nos trois invités. Divina Fromex, sociologue des médias, professeure à l'université Sorbonne Nouvelle, membre du groupe d'experts européens sur la désinformation et du comité d'experts du CSA. Et ça sur la désinformation en ligne et autrice de « Faut-il avoir peur des fake news ?» publiée à la Documentation française il y a 2 ans. Olivier Babeau est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux en sciences de gestion et vous êtes auteur du nouveau désordre numérique paru cette année chez Buchet-Chastel. Et Dominique Boulier est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en sociologie à Sciences Po Paris, spécialiste des usages du numérique et votre dernier livre qui est sorti donc à l'automne dernier s'appelle « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux » aux éditions Le Passeur.
Ils peuvent décider de manière complètement unilatérale et avec très peu de supervision démocratique ou d'action de la justice, donc hors état de droit. Enfin, hors état de droit, ça se discute, mais en tout cas, en se référant à leur seule condition générale d'utilisation, de censurer quelqu'un qui a 88 millions de followers. Et donc, interviennent dans le débat public sans aucune supervision démocratique.
Je pense que c'est une dérive très grave. On n'en est d'ailleurs qu'au début. Et il faut sérieusement se poser la question la responsabilité de ces géants du numérique dans une forme de d'effondrement annoncé de la liberté d'expression.
Cette décision me semble assez, j'ai envie de dire, facile. Donald Trump est au bout de son mandat. Je ne sais pas s'il avait été réélu, si ses réseaux et ses GAFA auraient pris une telle décision. C'est une problématique qui a émergé ces dernières années au niveau mondial, qui concerne tous les pays. Il y a une différence entre modérer un contenu et empêcher une personne censurer, de s'exprimer sur les réseaux sociaux.
Vous avez peut-être reconnu ces trois voix, celle du secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, et du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui tous les trois donc commentaient ces décisions des réseaux sociaux vis-à-vis de Donald Trump, considérant que c'était presque une affaire intérieure. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que ces hommes et femmes politiques sont très habitués à utiliser les réseaux sociaux et les voilà d'un seul coup découvrir que ce ne sont pas simplement des tuyaux mais qu'ils peuvent couper le tuyau, Dominique Boulier.
Oui, cet étonnement est étonnant. C'est dans le sens où cela fait quand même plusieurs années que ces réseaux sociaux pratiquent de cette façon-là et ont ce pouvoir de censure, entre guillemets, pour des raisons diverses qui correspondent à leur CGU, comme on dit, à leur condition générale d'utilisation, que personne ne lit d'habitude, mais qui en réalité ont un impact de fait sur leurs décisions. Alors l'intérêt, c'est que cette fois-ci, ça touche une personne visible dans un moment politique sensible et qui effectivement est sans doute assez intéressée, c'est pas pour n'importe quelle raison qu'on le fait dès maintenant, mais derrière, les justifications sont tout aussi discutables, et c'est cela qu'il faudrait mettre sur la table, c'est l'occasion précisément de dire quel est leur statut qu'il pourrait leur permettre de faire d'avoir ce type de pratique.
Divina Fromex, est-ce que c'est une censure, comme vient de le dire Dominique Boulier ?
Alors, si on se met du côté américain, non. Ils sont dans leurs droits, puisque les réseaux sociaux ne sont pas protégés par le Premier Amendement, donc ils sont dans une logique de commerce libre, et ils ont répondu à toutes les règles, avec toutes les mesures prises, blocage du compte, suppression d'un certain contenu, suspension du compte, une fois de plus, et enfin, exclusion du service face à un client récalcitrant. Donc, au pire, on peut les accuser, dans le contexte américain, de censure a posteriori, qui est ce qui est toléré en démocratie.
Et évidemment, c'est le contexte américain. Ils sont américains, mais ils sont aussi mondiaux. Est-ce que si on le regarde de notre point de vue à nous, d'Européens, c'est exactement la même chose ?
C'est tout ce que nous allons devoir discuter. Mais il ne faut pas s'étonner, comme on le fait naïvement, et découvrir tout d'un coup cela. Hein, le statut actuel est protégé par le droit américain. Si on ne fait pas bouger les Américains, nous, on est à peu près démunis, hein, même si on est en train de discuter en ce moment de modification de ces statuts. Il nous suffirait à nous de créer nos propres médias sociaux.
Olivier Babot, qu'est-ce que vous pensez justement de ce qui est en train d'arriver et de la responsabilité de ces réseaux sociaux en particulier du fait qu'ils seraient peut-être en train de devenir des éditeurs qu'ils n'ont jamais voulu être au départ. C'est comme ça qu'ils ne voulaient pas se présenter comme tels en tous les cas.
Absolument, ils avaient absolument aucune envie d'être éditeurs, ils avaient tout à fait envie d'être reconnus, en particulier aussi YouTube, hein, comme simple hébergeur, parce qu'ils savaient très bien que les obligations n'étaient pas les mêmes. Leur intérêt, on en parlera sans doute, mais c'est de maximiser juste le temps passé, hein, donc ils ont pas, c'est pas exactement l'intérêt eux-mêmes de rentrer dans ces éditions, ils l'ont plutôt été forcés. Le problème de ces plateformes, très rapidement, c'est qu'à mon sens, ce sont des omnis, c'est-à-dire des objets médiatiques non identifiés, à la fois pas vraiment hébergeur, pas seulement hébergeur évidemment, et à la fois pas vraiment éditeur, c'est-à-dire que c'est à la fois une place de débat et un journal, mais c'est pas tout à fait les deux en même temps. C'est ni l'un ni l'autre, et les deux en même temps si vous voulez. Et donc on a inventé des règles originales pour ces médias originaux en quelque sorte.
Ouais, Dominique Boulier.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une dérive historique dont personne ne s'est vraiment rendu compte, si vous voulez, mais qu'on voit bien, je pense que vous ne serez pas contre un peu d'histoire
sur cet aspect-là. Au contraire, vous pouvez y aller.
Donc, c'est effectivement que le tournant pour moi, il est en 2008-2009. Ces réseaux, quand ils naissent, 2004 pour Twitter, 2006 pour Facebook, etc., ce sont des réseaux qui sont en réalité des outils de convivialité avec un public relativement modéré et dont on se moque un peu parce que c'est quand même assez futile, etc. Donc c'est plus tout le type de comportement que l'on a à ce moment-là.
On dit d'ailleurs à l'époque, c'est un peu des discussions de bistrot, on est entre amis, etc. Ah, etc. Parce qu'effectivement, il n'y a pas des millions et des millions d'utilisateurs.
Exactement. Et à un moment...
Twitter, ça veut dire gazouillis. Hein,
oui, c'est ça.
C'est gazouillis, voilà.
Ouais, c'est ça.
Ça ne prétend pas être sérieux.
Voilà. Et donc, à partir des années 2008-2009, il y a deux choses, à mon avis, qui méritent d'être prises en compte. D'une part, c'est que ce soit Twitter ou Facebook, la monétisation va commencer à être un enjeu, c'est-à-dire comment, de fait, assumer les promesses qu'ils ont faites aux investisseurs, parce que malgré tout, il y a eu beaucoup d'investisseurs, et comment récupérer un minimum de rémunération, notamment, c'est le basculement vers la publicité. Et c'est Sheryl Sandberg, notamment, qui vient de Google, puis pour Facebook, va modifier ce statut-là. Et ça va être d'ailleurs un succès assez incroyable, comme pour Google.
Tardif pour Twitter, parce qu'on se souvient encore d'il y a 3 ou 4 ans, on disait voilà encore un service qui perd de l'argent, qui ne gagne pas d'argent, puis progressivement, bon, ben voilà, ils sont réussis à gagner de l'argent.
Twitter ne gagne de l'argent que depuis 2 ans, réellement. Mais en réalité, ce n'était pas forcément le critère. Le deuxième point important qu'il faut souligner, à la même époque, c'est pour ça que les deux sont liés, c'est qu'ils ont d'un côté inventé le bouton retweet et de l'autre inventé le bouton like. Et ça, c'est le deuxième aspect sur lequel il faudra bien sûr discuter. C'est-à-dire qu'en dehors des contenus, il y a aussi le fait qu'ils sont des accélérateurs de contenus, c'est-à-dire des propagateurs, et que ça amplifiait le rôle qu'ils ont joué. Et c'est sur ces deux aspects qu'il va falloir certainement revisiter complètement le statut qu'ils ont.
Divina Fromex.
Alors, je voudrais compléter un petit peu, je suis un peu impatiente en entendant ça. Pour moi, c'est 2012 qui est vraiment la bascule vers la fake news à cause de l'entrée en bourse de Facebook et Twitter. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ils doivent répondre aux actionnaires et donc ça précipite effectivement la monétisation. Mais en 2013, le like est protégé par le Premier Amendement. Donc, il se reprotège à nouveau et on retrouve ce
donc le Premier Amendement, c'est l'amendement sur
le statut hybride.
Le Premier Amendement, c'est l'amendement sur la liberté de parole.
Voilà, la liberté d'expression pour empêcher que le gouvernement ne vienne empiéter l'expression des individus. Voilà. Ce qui fait que c'est pas une censure, puisque c'est pas le gouvernement là qui a censuré Trump, c'est une plateforme. Hein. Donc, d'où l'inquiétude de certains de nos politiques qui se disent « Ouh là là, ils sont plus puissants que nous ». Mais ça, ils l'ont laissé faire eux-mêmes, hein, puisque la loi de 96 américaine, la loi des télécoms, est celle qui installe ce statut de transporteur, hébergeur. Hein. On voit bien, effectivement, comme le disaient mes collègues, hein, que la dérive arrive et que ça a un statut en fait qui devrait être mixte et qu'il va falloir être créatif, hein, pour bien représenter ce que font les médias sociaux, hein, et quel est leur avantage et leur apport par rapport à d'autres médias. Pour moi, effectivement, ils ne sont plus dans un statut d'hébergeur, puisqu'ils font de la publicité, hein, ils font de l'audience, ils monétisent ces audiences et ils assemblent et formatent et hiérarchisent des contenus. Hein.
Ouais.
Donc, c'est quand même problématique qu'ils fassent tout ce que font les éditeurs sans en avoir les responsabilités.
Exactement.
Hein. Donc, c'est là, je crois, qu'on arrive à un point ou de rupture. Hein. Mais il y a un troisième statut qu'il ne faut pas oublier à côté d'hébergeurs et éditeurs, c'est celui du contrôleur d'accès.
Ouais.
Hein, parce que pour moi, c'est plus inquiétant que Amazon ou Apple puissent arrêter par l'heure, carrément, une appli en tant que telle.
C'est ce qui s'est passé lundi.
Un individu qui, d'ailleurs, peut avoir des recours. Et oui. Hein, donc, on est vraiment là dans du décantage qui, en fait, enfin arrive entre ces trois rôles qui sont très poreux, qu'on a maintenus dans le flou tant qu'on ne savait pas où allait Internet. Hein. Et je crois que maintenant qu'on arrive à la maturité d'Internet, il va bien falloir remettre à jour ces statuts un peu obsolètes. Et je pense que les Américains vont s'y atteler.
Oui, sur ce point, Olivier Babeau, est-ce que entre hébergeur, éditeur, contrôleur d'accès, parce qu'il faut rappeler effectivement que, eh bien, d'un seul coup, Amazon qui possède de très nombreux serveurs, on peut dire, eh bien, écoutez, je bloque tous les accès à mes serveurs pour tel ou tel site. C'est ce qui s'est passé pour ce site Parler sur lequel beaucoup de ceux qui se trouvaient sur Twitter et qui suivaient le président américain s'étaient réfugiés pour pouvoir continuer à discuter. Eh bien, ils ont dit, on arrête l'accès à nos serveurs. Et cela, c'est effectivement un pouvoir gigantesque qui pourrait arriver pour d'autres hommes politiques ou même d'autres citoyens.
Oui, c'est un pouvoir absolument extraordinaire. Il y a vraiment deux crises démocratiques à pas confondre dans ce qui s'est passé tout récemment. Il y a évidemment la crise liée au trumpisme et au populisme, la crise interne américaine. Et puis, il y a la crise plus générale où l'enjeu, le défi, pourrait-on dire, posé à la démocratie par l'importance de fait de ces agora en ligne et des capacités extraordinaires et imprévues, inouïes de ce qui était à l'origine un petit trombinoscope d'université qui aujourd'hui a quasiment un tiers de l'humanité avec une fiche, hein, Facebook en l'occurrence, avec une capacité à déterminer ce qu'on montre et ce qu'on cache. Et on voit bien que l'idée de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, hein, pour qu'on n'abuse pas du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, hein, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc on a créé des institutions politiques fondées sur cette idée. Ça marche plus ou moins bien, mais enfin quand même, ça marche. Et les institutions privées ne sont évidemment absolument pas fondées sur un schéma politique, parce que leur schéma est complètement différent. Hein. C'est en effet un problème de rentabilité, de maximisation du temps que vous allez passer. Mais de fait, ils ont un pouvoir exorbitant dans la mesure où on ne voit pas très bien comment on peut faire un recours, quelle est le soubassement démocratique, à quel moment la démocratie, à quel moment le peuple peut se prononcer, qui fait la hiérarchie des contenus, hein, dont ma collègue parlait tout à l'heure, hein, c'est ce qui en fait deux des éditeurs. De fait, il n'y a pas de présentation de la réalité ni d'Internet pour un moteur de recherche, ni des discussions sur Facebook, c'est toujours une présentation de la réalité décidée par des algorithmes qui sont d'ailleurs particulièrement opaques.
Oui, justement, on y reviendra sûrement sur cette question.
Ils ont une ligne éditoriale.
Comment ? Oui, ça veut dire qu'ils
ont une ligne éditoriale.
Oui. Voilà, exactement.
Il a créé
un choix.
De facto.
Il n'y a pas de neutralité.
Je rajouterais quand même une troisième crise, peut-être, qui est la crise de la vérité, quoi, et la crise de la confiance dans la vérité, la qualité de l'information, parce que la troisième maldonne, si je peux dire, conjoncturelle qui arrive, hein, c'est le fait qu'on puisse monétiser les fake news et la désinformation. Et tout d'un coup, ce qui avait fait qu'on avait trouvé ces médias sociaux sympathiques, nous, du côté des démocraties, avec les printemps arabes, les révolutions Twitter, l'information qui veut être libérée, hein, le slogan de l'époque, hein, là, tout d'un coup, c'est la désinformation qui est libérée. Et là, on est dans une situation qui donne ce que ça a donné maintenant, c'est-à-dire que Twitter, sans vouloir l'exonérer de l'acte qu'il a pris, hein, il a réagi a posteriori face à un danger imminent, hein, c'est-à-dire le moment où le Capitole est envahi, hein, et donc des conséquences réelles, hein, d'une mobilisation réelle, qui n'a pas nécessairement créé, puisque ces gens-là existent et ont développé leur communauté réelle à part, hein, mais qui, comme le disait Dominique Boulier, peuvent se mobiliser, recueillir l'information et continuer à amplifier la désinformation. sans la moindre responsabilité. Avec la liberté d'expression viennent quand même un certain nombre de responsabilités. Elles sont même plus lourdes, je dirais, quand on a la liberté d'expression que quand on est dans des pays à censure d'État.
On est tout étonné, Dominique Boulier, de voir des réactions aussi rapides, aussi intenses de ce côté-ci de l'Atlantique. Après tout, on peut se dire, voilà, c'est une affaire liée à la législation américaine, ce sont des sociétés américaines. Et puis on voit Thierry Breton qui nous dit, c'est le 11 septembre des réseaux sociaux, qui nous dit le dogme de la section 230 vient de s'effondrer. La section 230, c'est ce qui permet le Communication Decency Act, qui permet justement et qui empêche les poursuites judiciaires pour des contenus publiés par des tiers, en ne retenant que le rôle d'hébergeur justement pour ces grands groupes. En l'occurrence, on voit Bruno Le Maire qui nous parle d'oligarchie numérique, comme si on ne l'avait pas vu auparavant. Ce sont des termes très très forts et qui montrent une surréaction presque par rapport à ce qui s'est passé.
Oui, je pense qu'il y a une forme de réaction d'affolement parce que, en réalité, ce qui est discuté actuellement avec le Digital Service Act au niveau européen était supposé calmer le jeu et du coup mettre en place un système de régulation et de devoir, j'allais dire, pour ces plateformes systémiques, pour qui sont supposées celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, mais en leur préservant et en leur confirmant leur rôle d'hébergeur, ce que c'était dans l'article 6 qui est proposé. Mais alors du coup, ils sont dans la situation où on préserve, dans la proposition qui est faite actuellement, qui est soumise à lobby déjà énormément, à une ligne de diverses sortes, ils se retrouvent dans une contradiction parce que la proposition d'hébergeur, de la maintenir, ok, on fait comme si de rien n'était, mais derrière, ils savent bien qu'il faut faire quelque chose. Et donc, il y a une quantité d'obligations faites aux plateformes qui, en réalité, finit par les tirer vers les côtés de l'éditeur. Mais on ne veut pas assumer ce passage-là. Et à ce moment-là, effectivement, on est dans une situation où même la législation qui est en cours, qui est en train d'être discutée au niveau européen, se retrouve quasiment obsolète avant même d'avoir été décidée. Parce qu'en réalité, il va...
Alors qu'elle était moderne et qu'elle était en avance.
Elle était supposée, justement, faire un bon compromis tout en prenant en compte la nécessité de réguler et de contrôler les contenus, etc. Ce qu'on voulait faire en France aussi, d'ailleurs. Et c'est là où, à mon avis, il y a une erreur, c'est que, d'une part, on ne va pas au bout de cette logique éditeur-hébergeur, d'un côté, et de l'autre, c'est qu'on croit que la question est seulement un problème de contenu en tant que tel. Et ça avait été déjà, j'en ai eu l'occasion d'en discuter avec la députée Avia, justement, Laetitia Avia, c'est qu'effectivement, la formulation de l'accélérateur de contenu était intéressante parce qu'elle mettait l'accent sur autre chose. C'est-à-dire que Trump peut dire toutes les bêtises qu'il veut, ça nous désole, c'est effectivement très dommageable pour le débat public, mais surtout, c'est le système d'amplification et d'accélération interne aux mécaniques et aux algorithmes des plateformes qui pose problème. C'est-à-dire que derrière, vous retweetez, vous likez, vous partagez, et cela, nous y participons, effectivement, et à partir de ce moment-là, nous sommes encouragés par cela, parce que c'est un système à vocation publicitaire pour susciter notre engagement. Ce type d'architecture ne peut pas être considéré comme la base d'un système de débat public. Il va falloir réviser cela.
Je vous donne la parole dans un instant, Divina Fromex, mais je voulais donner la parole à Olivier Babot, qui n'est pas intervenu. Olivier Babot, sur ce point.
En effet, c'est évidemment c'est très compliqué. C'est comme le RGPD, hein, c'est déjà pas mal d'arriver à commencer à formuler quelque chose, même si on sait que c'est très imparfait. Le risque, c'est de tomber de Charybde dans Scylla, en fait. C'est-à-dire que on a vu que les réseaux sociaux laissaient à eux-mêmes, en effet, créer cette espèce d'effet que j'appelle de l'arsène informationnel, qui font que les informations se répondent et en effet deviennent s'agrègent autour des points de vue les plus extrêmes, avec une sorte d'hystérisation, de radicalisation et des effets de bulle. Bon. Et donc on
ça
a
c'est le laisser faire, laisser passer. Ça c'est le laisser faire, laisser
voilà,
passer.
Voilà.
Dont on ne veut pas. Ça c'est faire.
Donc on a vu. Et puis donc il se passe ces effets qu'on n'a évidemment pas prévus. Si on nous avait dit il y a 20 ans qu'il se passerait ça, on aurait été probablement étonné. Donc mais ça on l'a bien constaté. Alors on a dit aux plateformes faites quelque chose et ils ont à la fois mis une forme d'édition automatique avec des mots-clés et puis des systèmes pour arriver à contrôler. Bon.
Et c'est comme ça qu'on n'a pas. C'est comme ça qu'on ne peut pas avoir l'origine du monde sur Facebook
voilà.
Parce que c'est censuré parce que évidemment voilà.
Un effet de soft power et de peut-être de contamination des visions américaines de la pudibonderie.
Oui ou de la pornographie.
Un peu
oui, c'est ça.
La vision ou de la voilà ou pour les cancers du sein on a pu du coup empêcher de montrer les publicités donc il y a ces effets de bord mais plus fondamentalement le problème c'est que une trop grande aseptisation des débats va pas empêcher la haine, elle va juste mettre un couvercle sur la cocotte minute. Voilà, je pense que c'est la bonne, c'est la bonne image. Et donc, les gens vont aller sur d'autres plateformes.
C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont sur Gab.
Il y a Parleur qui a été fermé, mais ils iront ailleurs. C'est un peu comme le piratage. Et donc, l'hystérisation, elle aura toujours lieu. La bulle cognitive, elle sera encore plus forte qu'avant. Et en fait, on aura juste créé des agora balkanisés. Alors que le but, c'était peut-être d'essayer d'en faire, et c'est toujours, je pense, le but, d'essayer d'en faire une agora raisonnable pour faciliter, améliorer le débat public. Pour l'instant, on n'y arrive pas.
Ouais. Voilà. Divina Fromex.
Oui, ben je voulais juste rajouter, parce que je faisais partie du groupe d'experts européens qui a choisi de pousser l'autorégulation des plateformes plutôt que la régulation. Mmh. Mais en fait, notre solution à l'européenne, c'est une solution de co-régulation, puisque nous surveillons l'autorégulation, vous voyez. Et qu'on a mis ERGA, donc les différents membres de l'audiovisuel, des régulateurs de l'audiovisuel en surveillance, et qu'on a créé des modérateurs de confiance quand même, qui ont une capacité de signalement auprès de ces réseaux. Hein. Donc on a quand même mis un certain nombre d'éléments humains, si je peux dire, dans la balance, hein, qui sont repris un petit peu par le Digital Services Rights, hein, mais qui effectivement risquent de devenir obsolètes, hein, parce que on a effectivement maintenant cette situation. Je pense que là, on est devant une panique médiatique, parce que Trump est un personnage qui va nous manquer à tous, hein, et que c'est en fait le lion qui est à terre, hein, qu'on regarde partir. Hein. Mais plus fondamentalement, hein, je pense que les Européens ont eu raison de se mettre plus tôt sur la régulation, pour que Internet, en tout cas en Europe, ressemble plus aux valeurs européennes, où on a certes la liberté d'expression, mais on a aussi la dignité des personnes en face, hein, et qui font que nous, certains termes, certaines formes d'expression, comme le discours de haine, par exemple, ou l'incitation à la terreur, sont interdites. Voilà, et c'est ce qu'il faut réussir à retrouver. Chacun va colorer les médias sociaux à sa manière. La chose que moi je déplore le plus, c'est que nous n'ayons pas nos réseaux sociaux à nous, parce que là, du coup, on aurait davantage encore la possibilité d'avoir du pluralisme dans les idées, hein, et du pluralisme dans les choix de médias sociaux.
Eh bien, si vous allez aujourd'hui sur le compte POTUS, président of the United States, donc sur le compte du président américain, vous trouverez un dernier tweet, c'est celui d'avant qu'on ait tout supprimé, en particulier les interventions de Donald Trump après le Capitole. On trouve un tweet qui est une vidéo de Noël du 24 décembre, on l'écoute.
Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Trump.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Voilà donc ce qu'on trouve sur le compte Twitter du président des États-Unis, une fanfare à l'occasion du 24 décembre, pas beaucoup plus parce qu'effectivement tout le reste a été supprimé sur ce compte, en particulier les interventions de Donald Trump lui-même qu'il a essayé de mettre et il n'y est pas parvenu. Dominique Boulier, on voit bien que Une des questions essentielles, c'est que nos éditeurs de presse, par exemple, sont des éditeurs qui sont généralement cantonnés à un territoire relativement restreint. Ces réseaux sociaux sont dans le monde entier, sauf en Chine ou dans d'autres pays où ils sont interdits. Mais néanmoins, ils sont dans le monde entier. Et donc, il faudrait qu'ils se régulent selon les législations de chacun ou de chacun des pays dans lesquels ils sont installés. Comment ça se passerait? C'est compliqué. On disait au tout début que Divina Fromex nous disait, eh bien, ils répondent à la loi américaine, qui est la loi de leur lieu de naissance. Et donc, qu'est-ce qui se passerait autrement?
Alors, la première hypothèse la plus idéaliste, c'est de dire qu'il faudrait une autorité internationale de régulation de tout ça.
Bon. C'est arrivé. On a créé toutes les normes internationales, ont été créées à la fin du 19e siècle, au moment de l'explosion industrielle. en rassemblant les gens dans des grands forums internationaux où on décidait des normes.
Complètement, tout à fait. L'Autorité internationale des télécommunications, par exemple, l'Union internationale des télécommunications, c'est même déjà 1860, etc. C'était la première. Mais le problème, c'est qu'en réalité, tout Internet est gouverné par des organisations qui sont en réalité de droit californien même, qui sont des associations un peu ad hoc, dont on n'a jamais... La Commission européenne a essayé de passer à un autre étage de régulation, ça n'a jamais fonctionné. Donc là, peut-être que c'est la question qu'il faut prendre en compte. Là, c'est une ingénierie institutionnelle et diplomatique absolument considérable. De l'autre côté...
Mais solution plus simple, vous...
Je pense que de l'autre côté, on a de fait la possibilité pour les différents utilisateurs d'être identifiés comme étant... Et ça, c'est une solution que Lawrence Lessig avait déjà soulevée il y a très longtemps, en disant effectivement, on doit, en tant qu'utilisateur, être soumis aux droits de son pays, hein, en tant que citoyen d'un pays. Et donc, techniquement, il est très possible à ce moment-là de dire, vous aurez du coup accès aux contenus qui seront identifiés en fonction de votre propriété, j'allais dire de votre carte d'identité d'une certaine façon, et donc de la zone juridique de laquelle vous relevez. Les algorithmes peuvent nous permettre de faire ça. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et du coup, on peut avoir des éditeurs avec des variations différentes. Évidemment, certains trouveront des façons de contourner, mais on est déjà dans quelque chose qui permet de réconcilier les droits, soit au niveau continental comme en Europe, soit nationaux, et l'utilisation et l'accès à des plateformes à prétention universelle.
Ouais, pour cela, tout de même, Olivier Babot, il faudrait avoir accès aux algorithmes, ou au moins comprendre comment ils fonctionnent, ces algorithmes de ces grandes plateformes.
C'est évidemment un des problèmes qu'on signale depuis assez longtemps. D'ailleurs, déjà Google, avec son algorithme de recherche, vous connaissez la blague qui circule sur la Silicon Valley, dans la Silicon Valley, où est le meilleur endroit pour enterrer un corps ? Réponse, sur la deuxième page des résultats de Google. Pourquoi ? Parce que personne n'y va jamais. De fait, Google a le droit de vie et de mort sur les entreprises en quelque sorte. Et c'est bien un petit peu ce à quoi je fais allusion tout à l'heure. C'est si vous tapez Napoléon sur un moteur de recherche ou sur YouTube, les réponses que vous allez avoir, les vidéos ou les propositions, ça reflète pas la réalité de toutes les réponses. Ça sera forcément une partie et puis ça sera un choix. Mais le choix, il va être fait selon quels critères ? Évidemment, le problème, c'est celui de la clarté, de l'exposition des critères. C'est de plus en plus difficile d'en rendre compte. Évidemment, ça fait partie un petit peu de leur secret stratégique, hein, la façon dont vous allez faire ce choix.
Ils le défendent comme secret des affaires. Ils le défendent comme secret des affaires.
Sauf que, oui, mais quand de fait, vous êtes l'endroit où se crée, où se fait l'opinion, vous avez de fait un rôle politique important. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que les réactions ont été très vives en France. C'est que tout d'un coup, beaucoup de personnel politique s'est réveillé en disant, mais en fait, prochaines élections, il faut compter avec ces espèces d'objets très très compliqués dont on ne sait pas très bien en fait pour qui, comment ils roulent. Si d'ailleurs vous allez pouvoir protester a posteriori et puis dire que quelqu'un n'a pas respecté les règles, parce que c'est un peu l'idée aussi du Digital Service Act, mais qui va accréditer aussi les gens qui pourront être crus comme plaignants? C'est toujours la question de Juvénal, hein. Qui gardera les gardiens? C'est donc celui en fait de la base démocratique de tout ça.
Ce que dit par exemple Divina Fromex, le politologue Dominique Régnier, quand dans un article du Figaro il dit mais qu'est-ce qu'un discours de haine, qui va décider de ce qu'est un discours de haine? Et donc il craint que les GAFAM n'imposent une orthodoxie idéologique et le contrôle oligopolistique de l'espace public numérique, dit-il.
Oui, mais il y a toujours des moyens de rendre compte de ce qui a été supprimé ou pas, hein, et ce qu'on voit dans les lois qui ont mis en place des restrictions en Allemagne, par exemple, c'est qu'il n'y a pas eu d'abus particulier. Et moi, je voulais revenir sur l'idée de ce qu'on appelle la gouvernance d'Internet, hein, parce que ça fait un moment que cette question est sur la table, hein, depuis le sommet mondial sur la société de l'information en 2005, hein, et il y a eu l'idée d'un traité plusieurs fois, un traité qui serait international, hein, avec un certain nombre de règles, notamment d'interopérabilité, hein, puisque c'est l'IUT qui est derrière, mais aussi d'ouverture de l'Internet, hein, et de sécurité. Mais de diversité, ça a été la proposition poussée par la France. Donc c'est dans les tuyaux aussi, cette discussion mondiale qui essaierait d'harmoniser en quelque sorte, hein, une souveraineté globale qui surveille Internet. Pour le moment, c'est ICANN qui le fait, mais c'est ICANN, c'est l'autorité de nommage, hein, qui a donc un pouvoir très restreint. Donc pour le moment, c'est elle qui le fait. Et il faudrait que ça soit peut-être une instance de l'ONU plus reconnue, de manière à ce qu'on ait une articulation entre une souveraineté nationale et une souveraineté globale. Voilà. Et ce qui est en train de se régler, malheureusement, ou heureusement plutôt, hein, c'est du côté américain, toujours, parce que c'est quand même eux qui contrôlent pour le moment, c'est l'arrivée de lois antitrust. Parce que ce qui arrive aussi, hein, l'extrême
c'est
pouvoir.
C'est le démantèlement.
C'est l'idée de les démanteler. Alors bon, ils y sont déjà essayés avec Microsoft, hein, ils se sont un peu cassés les dents au tournant du siècle, hein, mais maintenant, il y a quand même 50 États qui sont en train de mener des actions, hein, de loi antitrust qui avaient été mises entre parenthèses dans la loi des télécoms de 96 pour laisser Internet se répandre, trouver sa nature, trouver son rythme de croisière et trouver son modèle d'affaires. Il l'a trouvé, semble-t-il. Ça s'appelle la vente de la fake news massive. Je vous rappelle qu'il y a quand même une action qui s'appelle Stop Hate for Profit, hein, donc arrêter de faire du profit sur la haine. Bon, il y a quand même des moyens de réguler un peu la haine, me semble-t-il. Mais surtout, hein, c'est effectivement une des solutions, elle est américaine, c'est de casser, hein, ce pouvoir exorbitant qu'elles ont acquis, non seulement aux États-Unis, mais dans le reste du monde. Hein, et là, il faut qu'on soit tous unis et qu'on ait du courage. Ce qu'on n'a pas vraiment en Europe non plus, hein, pour essayer de casser ces trusts. Hein. Ouais. On n'arrive même pas à les faire payer des impôts. Donc, il faut qu'on soit aussi, que nos hommes politiques et femmes politiques arrêtent d'être dans l'étonnement, hein, et passent plutôt à l'action en termes de, il faut arrêter l'argent à la source, la source de la pub, et il faut leur faire payer des amendes et des sanctions qui nous permettent de mettre en place des solutions d'éducation aux médias du citoyen lambda. C'est ça pourquoi je me mobilise moi-même.
Dominique Boulier, vous avez une solution plus simple, on en fait des services publics et puis c'est tant mieux.
Ah, je n'ai pas forcément dit ça.
Vous laissez entendre que ça serait possible. On pourrait imaginer.
Le problème, c'est que d'ailleurs, quand on dit service public, on peut l'imaginer de façon différente. C'est-à-dire que, par exemple, si l'on considère qu'il y a un réseau social alternatif, j'allais dire, qui s'appelle VT Social, qui a été créé par le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales. Et donc, typiquement, là, il n'y a pas de publicité. Vous n'avez pas des fils d'actualité qui sont trafiqués par on ne sait quel algorithme.
Comme sur Wikipédia.
Exactement. Et donc, vous avez là la possibilité d'avoir y compris une gouvernance où il y a une expertise de Wikipédia, où c'est très sophistiqué. Et il n'y a pas, c'est pas le Far West, hein, clairement. Il y a de la régulation.
Mais tous les ans, Wikipédia et la Fondation demandent de l'argent à ses utilisateurs en disant on en a besoin, on a besoin pour vivre, etc.
Tout à fait. Donc on pourrait très bien dire que, par exemple, les Européens, par exemple, les Européens pourraient du coup décider, plutôt que de dire soit on va confier ça aux États, soit on fait encore notre Google ou notre Facebook, ce qui ne marche jamais, on le voit bien, plutôt de dire confions à ceux qui sont sur le terrain et qui ont déjà l'expertise de monter cette architecture-là avec les parties prenantes. Et là, on aurait quelque chose d'intéressant public, qui ne serait pas forcément un service public au sens classique, et qui serait dans la philosophie même de ceux qui développent Internet, qui consiste effectivement à distribuer les pouvoirs et à faire...
Pour le bien commun, quoi.
Le bien commun. Là, on a des choses qui peuvent fonctionner. Hein.
Oui, très brièvement, Divina Fromex, vous vouliez intervenir, et puis je donne la parole tout de suite à Olivier Babot. Brièvement, allez-y.
Juste pour dire que c'est Google qui est le plus gros soutien à la Wikipédia, donc vous voyez qu'on se mord la queue, là. Ouais. Et moi, je soutiens aussi l'idée d'un service public du numérique, hein, avec des obligations de services publics qui peuvent être effectivement très clairs, mais qui peuvent venir de la base. Hein. Et c'est vrai que là, on doit trouver un modèle hybride qui n'est pas le modèle de la télévision, même si en ce moment, on voit bien que c'est la télévision avec la directive des services des médias audiovisuels, hein, qui est en train de réguler Internet. Hein. Donc là, il y a danger, à mon avis, de reproduire un même modèle dont les GAFAM ne veulent pas. Et on a intérêt à différencier un maximum ce qui est la télévision, de la radio, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces médias s'empilent. Hein. Plus il y a de médias, plus il y a de démocratie. Hein. Ouais. Donc je pense qu'il faut en trouver un qui soit caractéristique de l'Internet.
Et pour vous, Olivier Babot, cette idée d'intérêt public ou de service public, ça n'aura jamais l'efficacité de ce qui s'est passé en Californie il y a une vingtaine d'années et qui a vu naître tous ces GAFA?
Ben oui, parce qu'on voit qu'ils se transforment beaucoup et c'est quand même pas exactement la caractéristique du service public d'être extrêmement innovant et d'arriver à être aussi rapide. On peut créer un service
public. C'est pas gentil pour nous, hein.
L'exception qui... Non, mais Radio France, c'est l'exception qui confirme la règle, si vous pouvez créer un service public de ce type-là, mais il y aura forcément, sauf si vous l'interdisez, mais c'est un peu compliqué du point de vue des libertés, des alternatives qui vont pouvoir trouver le succès. Le problème, sur la question du fait de casser, comme on avait fait à l'époque avec Rockefeller et la Standard Oil, hein,
AT&T dans les années 80.
Voilà, ou AT&T, exactement. Le problème, c'est que ces plateformes, c'est la loi de Metcalfe. Elles sont régies par la loi de Metcalfe qui veut que l'utilité d'un réseau soit égale au carré du nombre d'utilisateurs. Ce qui signifie, en réalité, que le gagnant prend tout. C'est-à-dire que vous allez sur un site de rencontre, vous allez avoir intérêt. Voilà, exactement. Vous allez avoir intérêt à aller là où il y a le plus de gens parce que cela va maximiser vos chances de rencontrer. Et donc, c'est là qu'il y aura le plus de gens. Donc, ça va être un petit peu autoréalisateur et cumulatif. Et donc, le gagnant prend tout. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ces terribles effets de monopole. Donc, si vous en cassez un à un moment donné, au bout de quelques temps, il y a un autre monopole qui va se ressurgir. Donc, la vraie question, sans doute, c'est en effet comment arriver à permettre l'élaboration, plutôt l'éveil par le haut de la concurrence, c'est-à-dire par une demande qui va forcer les plateformes à être vertueuses. On voit par exemple qu'il y a une demande réelle pour la vie privée et qu'il y a des gens qui sont capables de changer d'opérateur, de faire des demandes. Il y a une demande réelle aussi pour le respect de certains types de valeurs. Ça, c'est la première réponse. Je pense que ça peut être du point de vue du consommateur. Et je crois que tout à l'heure, ma collègue disait l'éducation aux médias, c'est évidemment extrêmement important. Et la dernière chose, très rapidement, c'est renforcer le rôle des médias traditionnels. Parce que ces médias traditionnels qu'on avait dit fichus, has-been, pas intéressants, en fait, on se rend compte qu'on en a prodigieusement besoin parce qu'on a besoin de retrouver cette capacité d'avoir des gens qui, pour le coup, sont des éditeurs, qui affirment le classement des informations, la hiérarchie, des voix et l'accréditation des paroles. Et donc on comprend bien que ça doit marcher, on doit arriver à articuler l'agora et les médias traditionnels.
Mais cela, d'une certaine façon, est-ce que ce ne sont pas des propos purement d'Européens sur ce point, Dominique Bouly, est-ce que vous êtes en train de dire les uns et les autres de façon un peu différente ? C'est-à-dire, si on tenait les propos de l'autre côté de l'Atlantique, on n'aurait absolument pas la même vision des choses.
Alors je pense justement que c'est pour ça qu'il est peut-être difficile d'entrer dans la question par le processus de régulation des contenus, parce que précisément les divergences juridiques vont être très importantes. En revanche, et c'est pour ça c'est ce que j'ai proposé dans mon livre, c'est d'intervenir sur la question de la propagation, de la viralité, qui elle est extrêmement destructrice, parce qu'en réalité, quels que soient les contenus, au bout du compte, notre espace mental est totalement occupé par ça, et ça nuit à tout le monde, au bout du compte, et d'une certaine façon. Donc l'idée de casser les chaînes de contagion, qui est un peu d'actualité, c'est exactement ça. Je pense que c'est cela qui mériterait d'être mis au cœur de la discussion.
Oui, mais on sait bien que quand on va vite, on a envie d'aller plus vite et qu'on n'est jamais revenu en arrière sur la rapidité de ces informations, de la manière dont elles se propagent et dont elles nous occupent d'une certaine manière.
Oui, mais au bout du compte, on a été amené aussi à prendre des mesures de sécurité, de sécurité mentale, qu'on aurait pu appeler comme on pourrait pour la sécurité routière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on perturbe tellement le débat public et ce qui est intéressant dans ce qui se passe actuellement, c'est que c'est le deuxième acte après Cambridge Analytica où la classe politique se voit menacée par ce type d'accélération, par ce type de propagation extraordinaire. Donc ils vont commencer à se dire, il faut qu'on freine ça, non seulement ce n'est pas réguler forcément le free speech intrinsèquement, mais au moins casser le free reach, celui qui vous permet d'arroser tout le monde comme le faisait Trump à une époque.
Divina Fromex, est-ce que vous pensez par exemple, comme le laissait suggérer tout à l'heure Dominique Boulier, que l'Europe va être obligée de remettre se remettre au travail pour pouvoir justement réfléchir à ce Digital Service Act qui se voulait assez tolérant, gentil, pas très agressif vis-à-vis de ces GAFA, par exemple, et de ces réseaux sociaux, brièvement.
Je crois que pour rester européen, pour ne pas tomber dans ce que veulent les pays non démocratiques, c'est-à-dire la censure, nous allons devoir être malins et futés et aller du côté des utilisateurs aussi, et donc leur donner un peu de la place. Moi, je pense qu'il faut les éduquer. Parce que on voit très vite que dès qu'ils sont un peu alertés, éduqués, nous on a fait dans mon association Au Savoir Devenir, on a fait plusieurs recherches avec InVid, avec des vérificateurs, etc. La curiosité des jeunes est énorme et avec 2 heures d'intervention, on les rend déjà extrêmement alertes et on engage leur esprit critique. Donc dès qu'on leur dit méfiez-vous, la désinformation, c'est la contagion de l'émotion. Eh bien, vous savez quoi? Ils veulent pas être pris en défaut. Et donc, la dernière ressource, c'est l'intelligence humaine et c'est le discernement. Et ça prend du temps, mais pas tant que ça. L'éducation aux médias, c'est aussi un outil de réponse rapide.
Merci.
Et j'y crois de ce point de vue-là.
Merci beaucoup, Divina Fromex. Vous êtes autrice de « Faut-il avoir peur des fake news ?» à la Documentation française. Dominique Boulier, on peut lire avec beaucoup d'intérêt vos propositions dans « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux ?» C'est sorti l'année dernière au Passeur. Et de votre côté, Olivier Babeau, vous êtes auteur du « Nouveau désordre numérique » sorti l'année dernière. Également chez Bûcher Chastel. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Imane Gilles. Laurie Vachon était avec nous à la technique et Alexandre Manzanares à la réalisation. Demain, le temps du débat s'arrêtera comme d'autres émissions de France Culture sur les 10 ans des printemps arabes et nous poserons cette question. Qui a-t-il à célébrer. Dans 3 minutes, ce sera l'heure d'Affaires culturelles. Et dans Affaires culturelles, l'invité sera Jean-Paul Salomé. Et vous écoutez France Culture, il est tout bientôt 19h. On a quelques secondes d'avance, ça arrive rarement, pour passer au titre de l'actualité, car 19h vont sonner maintenant.